commencer tout de suite donc, en vous donnant quelques ordres d'idées de la fréquence de la dépression. Il y a à peu près une personne sur cinq, ça veut dire 20% de la population, qui fera ou a fait un jour une dépression dans sa vie. Donc ça représente une personne sur cinq. On est ce soir 70, ça veut dire qu'on peut supposer que une bonne partie de parmi nous a pu connaître cette expérience vraiment désagréable, ou la connaîtra peut-être un jour, suivant les circonstances. L'âge principal de déclenchement de la dépression, c'est entre 45 et 50 ans, mais franchement, tous les âges sont touchés par cette maladie. Du nourrisson, on décrit des épisodes dépressifs chez les tout-petits, jusqu'aux vieillards, et ces formes de dépression, j'en parlerai pas beaucoup, elles sont assez spécifiques et elles relèvent plus des professionnels. Les femmes sont touchées plus que les hommes. On a en gros dans les statistiques une fréquence de l'ordre de 2 femmes pour un homme. Une des explications à cette disproportion tient au fait que les hommes sont souvent dans le déni. On y reviendra lorsqu'on parlera de la dépression. Un homme a beaucoup plus de mal à reconnaître qu'il est dépressif. Et lorsqu'on fait des statistiques, lorsqu'on fait des relevés de cas, on aboutit à une sous-déclaration. Mais il y a un petit autre chose que l'on abordera un petit peu plus loin. La dépression, globalement, est responsable de 150 000 tentatives de suicide par an en France. 150 000 tentatives de suicide. Et environ 10 000 décès par an par suicide, dont 1000 ados. La dépression, je dirais juste quelques mots tout à l'heure sur la dépression des ados, mais 1000 ados, donc des jeunes, en pleine vie, avec la vie devant eux, donc se suicident et réussissent et meurent par tentative de suicide. Et c'est, d'emblée, ça pose un des éléments vraiment qu'il faut constamment garder à l'esprit lorsqu'on côtoie, lorsqu'on veut aider quelqu'un qui est dépressif, c'est le dépistage du risque suicidaire. On reviendra peut-être un petit peu là-dessus. Dans le monde, on considère que c'est actuellement la première cause d'incapacité, c'est-à-dire d'interruption de l'activité, soit l'activité personnelle ou l'activité professionnelle, et ça représente à peu près 350 millions de malades, 1 milliard de dollars de coûts. C'est un coût énorme pour toutes les sociétés. Dans la Bible, on a des exemples assez nombreux, si ce n'est de dépression. Le terme dépression n'existe pas dans le langage originel dans lequel la Bible a été écrite, mais on retrouve des termes qui sont un peu assimilables chez des personnages comme Job, comme Moïse, comme Anne, comme David, qui est décrit dans les psaumes, Élie également, qui présente un cas d'école dans le livre des Rois, Jérémie, Jonas, même Jésus, qui à un moment donné, dans le jardin de Gethsémané, a pu dire « Je suis triste jusqu'à la mort », et qui a vécu une situation de stress avec la perspective de sa crucifixion, qui était particulièrement intense, d'autant plus qu'il était totalement isolé pour le vivre. L'apôtre Paul, qui dit « Nous sommes abattus, mais pas jusqu'à la mort ». Voilà, on a de nombreux exemples bibliques. Et dans l'histoire, on connaît un certain nombre de personnages qui ont été des dépressifs chroniques, récidivants. J'en ai cité quelques-uns ici, on ne va pas s'y attarder. Et il y a aussi des chrétiens de renom qui ont été des dépressifs et qui en ont témoigné avec authenticité, transparence. Luther, Calvin, Whitfield, Baxter et Spurgeon. Spurgeon, vous avez peut-être entendu, on l'appelle le prince des prédicateurs. Il a écrit des sermons et donné des sermons qui étaient magnifiques. Et il a écrit un livre entier sur ses propres accès de dépression. Et il a été particulièrement soutenu pendant tout son ministère par son épouse. On voit déjà là poser un petit jalon aussi, c'est qu'on peut être un chrétien fidèle, un chrétien fervent, et connaître cette expérience de passage par le bas dans nos vies à certains moments. Quand on fait un petit peu les catalogues de librairie, on s'aperçoit qu'il y a au moins une douzaine de livres chrétiens sur le sujet. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt particulier dans le monde chrétien pour ce sujet-là. Et donc, une première chose qu'il faut démystifier, on peut parler de la dépression, on peut parler de sa propre dépression, ou d'un passage, d'une baisse de morale, d'une perte de morale, comme ceci lorsqu'on est chrétien. Il y a des milieux où aborder et prononcer ces mots est significatif d'un péché tout de suite. Donc, c'est important vraiment de garder ça présent à l'esprit. On donnera quelques explications un peu plus loin. Quelques mots pour dire ce que la dépression n'est pas. Il faut qu'on s'entende quand même sur les choses. La dépression n'est pas une tristesse très passagère, un coup de cafard, un coup de blues, une fatigue, vous savez, celle du dimanche soir, on n'a pas envie de recommencer la semaine, ou celle du lundi matin, une petite déprime. Dans chacune de ces émotions que nous pouvons être amenés à vivre, il y a un caractère qui est passager, il y a un impact qui est réduit sur la vie personnelle, familiale, sociale, relationnelle ou professionnelle. Et la souffrance éprouvée n'est pas insupportable, on en ressort assez rapidement. Le deuil n'est pas la dépression. Dans une phase de deuil, on connaît des pleurs, on connaît des réminiscences de souvenirs, des résurgences de situations vécues, on se réveille la nuit, on a fait des cauchemars peut-être, on a rêvé, etc. Tous ces phénomènes sont normaux dans le deuil, et pendant une durée qu'on estime en général de l'ordre de 6 mois. Un deuil, ça prend du temps, et ce n'est pas une dépression que quelqu'un s'effondre en pleurs lorsqu'on rementionne la personne aimée qui est partie. Par contre, ça peut déboucher sur une dépression lorsque ça dure, lorsque cette situation s'ancre dans le temps et persiste et provoque une souffrance personnelle, une réduction des activités, etc., importante et durable. Le burn-out, on en parle beaucoup aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup, et puis parce que c'est quelque chose qui est venu en surface, on l'évoque, les situations de surmenage professionnel, etc., n'est pas non plus une dépression. Lors du repas des hommes, on m'a posé la question, quelle est la différence ? La différence, si vous voulez, moi j'ai donné une image, quelqu'un qui est en burn-out, c'est quelqu'un qui est en train de se noyer, mais qui se débat, c'est-à-dire qu'il augmente même son activité, il essaie de multiplier son temps de travail pour essayer de s'en sortir, il devient improductif, ça ne sert plus à rien, mais il se débat. Le dépressif, c'est au contraire celui qui a baissé les bras et qui se laisse couler. On veut prendre une image pour décrire les choses. Et puis d'autres symptômes que on peut ressentir dans notre vie émotionnelle, l'anxiété, l'angoisse, l'insomnie, le stress... Des choses beaucoup plus graves, des délires ou des hallucinations, des choses comme ça, peuvent être présents parfois dans la dépression ou dans des formes très graves de dépression, on évoquera leur existence tout à l'heure, mais correspondent en général à d'autres pathologies. Ce soir, on ne parle que de la dépression, on ne parle pas des psychoses, des choses comme ça, d'autres maladies psychiatriques qui peuvent être particulièrement sévères et qui peuvent parfois aussi toucher les chrétiens. Je vais laisser la place à Rosette tout de suite. J'ai demandé à 2 personnes de rendre un court témoignage sur ce qu'elles ont vécu. Je les remercie particulièrement parce que ce n'est pas forcément facile de prendre la parole et de dire des choses qui ont été très profondes et intimes, personnelles. Et Rosette a accepté de décrire quelque chose qu'elle a vécu il y a quelques années. Je te laisse la parole, Rosette.
Bonsoir à toutes. Oui. Donc bonsoir à toutes, je vais vous donner mon témoignage. Après une accumulation d'années d'insomnie, j'ai été engloutie par une dépression à l'âge de 32 ans. Sans savoir pourquoi, j'avais tout pour être heureuse. Mariée à l'âge de 23 ans, puis 3 enfants en 5 ans, je me sentais toute puissante et performante. Je pensais être devenue Wonder Woman. Cependant, je dégringolais. Je vais vous citer les symptômes de ma dépression. Insomnie avec un réveil à 3 heures du matin sans possibilité de me rendormir. Une immense fatigue dès le matin et jusqu'au soir. Aucun plaisir à vivre. Aucune envie, une tristesse immense, un sentiment de vide accompagné d'une grande solitude, des troubles cognitifs, une mémoire défaillante. J'avais l'impression que mon cerveau trempait dans un liquide bleu. C'est comme ça que je me l'imaginais. La mémoire effacée. Des douleurs chroniques, mal au dos, mal aux épaules, de la boulimie une prise de poids importante, des angoisses avec attaques de panique. Tout ceci engendrait une faible estime en moi, une culpabilité toujours grandissante, quoique préexistante, laissant ma famille, mes proches dans l'incompréhension, mes chers enfants dans l'inquiétude. Il s'en est suivi une dégringolade professionnelle. J'ai dû quitter un travail et un métier que j'aimais. Toujours plus de responsabilités m'écrasaient. Le plus terrible a été de ne plus arriver à lire la Bible. Uniquement des versets en boucle que je relisais inlassablement. Des prières courtes, une impossibilité à me concentrer. J'en avais conclu que mon problème était spirituel. J'étais une mauvaise chrétienne. La honte m'empêchait de communiquer ma détresse. Il m'a fallu du temps, beaucoup de temps, pour comprendre que j'étais malade. J'ai accepté cette fragilité. Je suis donc rentrée dans une démarche de soins proposée par des médecins. Mes enfants étaient ma priorité absolue. Je devais aller de l'avant. Un vrai combat avec Dieu. Il voulait me porter. Je me suis appuyée sur lui à fond. J'ai appris la dépendance et me suis souvent retrouvée au pied de la croix. Je conclurai très simplement par « Il faut se soigner ». Merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup Rosette pour ce témoignage. J'ai demandé à Rosette de se limiter à un aspect de la question, parce qu'il s'intègre tout à fait dans les cadres dans lesquels on avance maintenant. Il y aura un autre témoignage tout à l'heure sur un autre aspect. Sur la dépression, on a beaucoup d'idées reçues. J'ai noté surtout de la part des hommes, parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup insisté, je vais aller beaucoup plus vite là, sur ce point ce soir. Le dépressif, c'est quelqu'un qui s'écoute trop, c'est quelqu'un qui fait un peu du caprice, quoi, qui cherche à manipuler au travers de sa dépression. C'est se chercher des problèmes quand on n'en a pas. Ça, c'est des paroles entendues ou rapportées par des femmes dans les consultations, souvent. Oui, mon mari me dit ça. Hein. La dépression, c'est un signe de faiblesse. La dépression, c'est un manque de volonté. Si tu as un petit peu de volonté, tu devrais pouvoir t'en sortir. Hein. La dépression, ce n'est pas une vraie maladie. Ce n'est pas une maladie, ça. La dépression, c'est dans la tête, donc ce n'est pas une maladie, par voie de conséquence, bien sûr. Dépressif ou dépressive, alors que tu as tout pour être heureuse, tu as de l'argent, tu as des enfants, tu as une famille qui va bien, etc. Vous êtes à témoigner, même si on peut toujours trouver des choses qui ne vont pas dans une situation, mais voilà. Et surtout, ces affirmations. Si tu as la foi, si tu es chrétien, tu ne peux pas déprimer, tu n'as pas le droit, en somme. Et donc, on rajoute à la dépression de ces personnes la culpabilité. La dépression, c'est un péché, ou c'est parce qu'il y a un péché dans ta vie qu'elle survient. Et là aussi, c'est à nouveau une nouvelle couche de culpabilité. Voilà un peu les choses entendues, et peut-être que vous en avez entendu vous-même de ce type-là. Je passe un petit peu vite là-dessus. Alors, la dépression, elle se reconnaît à quoi ? Rosette a présenté vraiment les signes caractéristiques. Je ne lui ai rien dicté à Rosette, hein, dans ce qu'elle a décrit, vraiment. Mais on a presque un cours de psychiatrie au travers de ce que Rosette nous a dit. L'humeur dépressive, c'est-à-dire notre ressenti par rapport à la vie. Est-ce qu'on est joyeux ou pas ? Non, c'est une tristesse qui pèse sur les épaules, qui peut se traduire par des pleurs, une perte d'espoir, le pessimisme. Tout est vu sur le côté négatif. Des idées noires qui peuvent aller jusqu'à des idées de mort. Et une souffrance morale, c'est-à-dire c'est une souffrance vraiment profonde. Et je crois qu'il faut entendre les dépressifs le décrire pour réaliser à quel point c'est une souffrance. Ce n'est pas une douleur d'un organe précis du corps, d'un membre ou d'une articulation ou quoi que ce soit, mais c'est une souffrance intérieure véritablement qui est extrêmement pénible à vivre, au point que certains, pour s'en échapper, pensent à la mort. Il y a une perte de volonté, perte de l'envie d'entreprendre, de prendre des décisions, perte de l'envie de vivre, d'entrer en relation. Vous verrez les conséquences dans quelques instants. Perte d'intérêt. On est indifférent à tout. Il arrive quelque chose d'heureux ou de malheureux, on a du mal à se réjouir ou au contraire à compatir. une espèce d'anesthésie affective, on ne ressent plus les émotions. La perte du plaisir, le repli, l'isolement également sur le plan relationnel. Et il y a un ralentissement intellectuel, ce que Rosette appelait des troubles cognitifs. L'attention, la concentration, la mémoire font défaut. Les gestes, la parole sont ralentis également. L'expression est pesante, elle est longue à venir. Et ça se manifeste surtout par une fatigue dont la caractéristique la plupart du temps est d'être surtout matinale. Ce n'est pas la fatigue d'une fin de journée qui a été bien remplie et puis qui est légitime, mais c'est la fatigue dès le matin en se levant, où justement on n'a plus envie de se lever, on n'a pas envie d'affronter la journée. Elle paraît insurmontable, cette journée. Et puis des pensées de dévalorisation, de culpabilité, des sentiments d'indignité. Je fais souffrir ma famille, je suis une mauvaise mère, je suis une mauvaise épouse. Et d'incurabilité, de toute façon ça ne se soigne pas, je suis condamné à être comme ça toute ma vie, d'inutilité. La souffrance morale, je l'ai remarqué une deuxième fois ici. Et il y a un retentissement physique également de la dépression. Le sommeil est perturbé. La plupart du temps, il n'est pas réparateur. Il ne redonne pas des forces. Il y a des réveils nocturnes. Il y a des pensées qui ruminent. L'appétit est touché, soit en plus, soit en moins. La sexualité est particulièrement touchée aussi. Il n'y a plus de désir sexuel, plus de plaisir dans la sexualité conjugale. Des douleurs chroniques diverses qui apparaissent. Et on a employé le terme de dépression masquée pour un certain nombre de personnes chez qui la seule manifestation de la dépression, c'est justement ces douleurs inexpliquées. Des gens qui arrivent avec des dossiers complets de 10 cm, d'IRM, de radio, de scanner, et tout ce que vous voulez, qui ont consulté 10 ou 15 médecins spécialistes de la ville, et chez qui il n'a jamais été dépisté parce que justement l'abord de ces personnes a été complètement éclaté, fragmenté. Il n'a jamais été dépisté véritablement quels sont en fait dépressive. Et on soigne la dépression, on voit les douleurs disparaître. C'est très curieux, c'est particulièrement vrai pour les douleurs de dos, des douleurs cervicales, des douleurs de colonne, pour des douleurs digestives, pour des douleurs gynécologiques, c'est vrai également. Donc l'anxiété, l'angoisse qui sont souvent surajoutées en même temps. Rosette décrivait des attaques de panique, voilà, c'est des crises d'angoisse vraiment aiguës, avec l'impression d'étouffer, de mourir, et le risque suicidaire. 70% des gens qui se suicident sont des dépressifs. Ça ne veut pas dire l'inverse, hein, d'accord, la réciproque n'est pas vraie. Mais 70% des suicidés sont dépressifs. Et assez souvent, et plus particulièrement peut-être chez les hommes, je vais venir dans un instant aux particularités, l'association à des abus. Abus d'alcool, abus de médicaments, abus de substances interdites. Chez les ados, par exemple, ça peut être le cannabis qui est révélateur. Alors, ce n'est pas parce qu'un jour, on a une humeur dépressive, on est triste et on a pleuré, que l'on est un dépressif et on est en pleine dépression. Il faut qu'il y ait une association d'au moins 4 de tous ces signes, de ces catégories de signes, pendant un minimum d'une quinzaine de jours, presque tous les jours, pour qu'on puisse caractériser cela comme étant une dépression. C'est-à-dire quelque chose de passager, ça ne nécessite pas de s'inquiéter, mais lorsque ça devient permanent, pesant, répétitif, et que ça impacte vraiment la vie personnelle, familiale, professionnel, bien entendu, là, il y a des questions à se poser. C'est important d'avoir ces signes à l'esprit. Vous retiendrez surtout le témoignage de Rosette, peut-être parce que ça marque plus qu'une énumération comme celle-ci, pour se dire, mais bon, ce que je vis en ce moment, ou ce que celui qui est à côté de moi vit, est-ce que par hasard, ce ne serait pas cela? Est-ce qu'il n'a pas besoin de réfléchir un petit peu sur ses symptômes, parler, les exprimer? Parce qu'une des grandes difficultés, c'est souvent que on ne les dit pas, ces symptômes, parce qu'on n'ose pas. On n'ose pas se l'avouer. Et il faut remarquez, moi j'ai souvent constaté que les chrétiens ont une particulière résistance à avouer, à s'avouer à eux-mêmes que ben, oui, ils sont dépressifs. Il y a des choses qui ne tournent plus rond. Il y a des spécificités sur lesquelles j'attire juste brièvement votre attention. Les tendances de l'homme dépressif. L'homme dépressif ne va pas le manifester forcément par la description que je viens de faire, ou en tout cas, il y aura quelques éléments, mais ça va être plus souvent un changement dans le caractère. Du côté de l'irritabilité, l'agressivité au contraire, plutôt que la baisse d'énergie, une impulsivité, des crises de colère, la perte de confiance en soi, une fuite dans le travail, au contraire, plutôt que de la fatigue et puis il ne va pas au travail, une perte d'expression de son amour, de ses émotions, des prises de risque, abus d'alcool, perte de désir sexuel. Et chez l'homme, moi j'ai l'habitude régulièrement d'aller jusque à poser cette question Est-ce que vous avez un désir sexuel qui est normal, habituel, ou est-ce qu'il est fortement atteint? Et c'est un signe qui est souvent très caractéristique et qui permet aussi à l'homme de prendre conscience qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose qui n'est plus dans la normale, dans son état. Une des caractéristiques de l'homme, c'est le refus de reconnaître sa maladie. Le refus de consulter, il veut s'en sortir tout seul et a également un mauvais suivi du traitement. Il est difficile de faire prendre des médicaments régulièrement, surtout des antidépresseurs, si c'est devenu nécessaire, ce n'est pas le cas toujours, à un homme. C'est un aveu, en quelque sorte, de faiblesse. Ça met en péril l'image qu'il a de sa masculinité, de sa toute-puissance. Et c'est particulièrement difficile à faire reconnaître à un homme sa maladie. Lorsque un homme fait une tentative de suicide, et ils en font autant que les femmes, il réussit plus souvent son suicide. Et trois quarts des décès par suicide sont des décès d'hommes. D'accord ? Parce qu'il est plus inventif dans ses moyens, et il va plus volontiers jusqu'au bout dans la violence contre lui-même qu'une femme. Les tendances de la femme dépressive, on est plutôt sur le côté plutôt abattement, tristesse, pleurs, culpabilité, fatigue, des plaintes diverses, des somatisations, l'incapacité à faire face à ses tâches, la perte également de désir sexuel, des troubles de l'appétit. Et une femme accepte plus volontiers de consulter et de se traiter. Elle fait plus de tentatives de suicide, mais avec moins de décès. Je vois qu'il y a des gens qui prennent quelques notes et tout ça. Moi, je peux tout à fait vous passer le PowerPoint après si vous me demandez. Ne perdez pas trop de temps là-dedans. Les tendances de l'ado dépressif, pour le reconnaître, et je dirais pas jusqu'à l'enfant, c'est des conduites souvent transgressives. Un recours à l'alcool, alors que ce n'est pas du tout une habitude, à des drogues, des addictions aux écrans par exemple, une activité sexuelle qui était inhabituelle et qui devient complètement désordonnée, des automutilations, vous savez, la lame de rasoir sur les bras, etc., des actes de violence, des actes antisociaux. Un gamin qui commençait à faire des actes délictuels alors qu'il en faisait pas, c'est souvent le signe d'un état dépressif, avec la rupture scolaire, il cesse d'aller à l'école, ou en tout cas il y a une rupture dans les résultats, un changement dans le caractère, une irritabilité, des troubles du sommeil, de l'appétit. En gros, on reconnaît, mais il a changé, on le reconnaît plus, c'est plus le même. Et il faut se poser la question de savoir s'il n'y a pas un état dépressif. Et c'est une période de la vie qui constitue une période de fragilité sur le plan psychologique, avec tous les changements que l'adolescence impose, la puberté impose. L'impact familial global, simplement quelques données. Vous imaginez bien que quand quelqu'un est dans un état un peu maximal, comme celui avec tous ces signes que j'ai décrits, qu'il y a un impact familial qui est important. Et les statistiques montrent que l'homme dépressif a un plus fort impact négatif sur son couple, à peu près trois fois plus que la femme dépressive n'en a. C'est-à-dire qu'une femme dépressive va réussir à sauvegarder un peu l'harmonie familiale, l'harmonie du couple, alors que l'homme dépressif va mettre à mal toute la famille d'une façon plus importante, trois fois plus. Le déni dans une famille est une source grave d'incompréhension mutuelle au sein du couple. Lorsque quelqu'un refuse de reconnaître qu'il n'est pas bien, il dit « mais non, ça va, je suis juste un peu fatigué, je suis juste stressé au travail, etc. » alors qu'en fait, il est dépressif et que ça se traduit dans la vie de couple, dans les relations, etc. Vous imaginez l'impact de façon telle que les statistiques montrent que 3 ans après un épisode dépressif dans un couple, c'est statistique tout venant, hein, il y a 8 fois plus de divorces que la normale, si on peut dire, que le taux normal. Donc il y a un impact sur le couple qui est très important. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu présenter un volet homme et un volet femme également, pour qu'on soit conscient de cela. On n'est pas à l'abri, en tant que chrétien, de cela. Et je pense qu'un couple chrétien aussi est secoué, ballotté, peut-être pas jusqu'au divorce dans ce domaine-là, mais par cette pathologie. Lorsqu'il y a, et ça c'est l'impact sur les enfants, lorsqu'il y a eu dans la famille un parent dépressif, il y a 3 fois plus de risques de dépression future chez l'enfant. Donc l'impact familial est très, très marqué également. Et puis dans une famille, lorsque quelqu'un a fait un épisode dépressif qui a été caractérisé, qui a été profond, qui a nécessité un traitement longtemps, vous imaginez bien que l'image de la personne, et en particulier l'image de l'homme, est durablement impactée dans la vie familiale. Quelques mots sur l'impact spirituel de la dépression. Rosette l'a évoqué. Et ça tient aux signes globaux de la dépression. En particulier, la vie spirituelle personnelle, en particulier la lecture de la Bible, la prière, le ressenti de la communion que l'on peut avoir avec Dieu ou avec les frères et sœurs, sont impactés. Lorsqu'on a des troubles cognitifs, des troubles de la concentration, et moi c'est des choses que j'ai régulièrement entendu rapporter, on me dit « lis la Bible ». Je commence un chapitre, au bout de 2-3 versets, je ne sais plus ce que j'ai lu. Je recommence, si j'en ai l'énergie, je fais 2-3 versets et je ne me souviens plus de ce que j'ai lu. Et je n'arrive pas à aller plus loin. Et de toute façon, ça ne me parle pas, quoi. Ça ne résonne pas en moi. Au niveau de la prière, quelque chose qu'on entend régulièrement, mais j'ai l'impression que Dieu ne m'entend plus, ça ne monte pas plus haut que le plafond de la pièce dans laquelle je suis. Parce que ce n'est pas que la prière n'a plus d'efficacité de la part du dépressif, ou que Dieu ne l'écoute plus, qu'il a dit « dépressif, je ferme les oreilles ». Non, pas du tout. Mais c'est le ressenti intérieur que nous avons, nous, de notre communion avec Dieu, le plaisir que nous avons à la lecture de la parole de Dieu, le plaisir à y découvrir des choses pour nous-mêmes, tout ça est gommé par les troubles cognitifs que l'on a. On a du mal à se concentrer, on a du mal à mémoriser, et donc ça se ressent dans notre vie spirituelle. Et le conseil, je peux l'aborder tout de suite ici, qui est de dire « écoute, tu vas pas bien, mais prends la Bible, ouvre la Bible, lis des chapitres entiers, tu vas voir, ça va te faire du bien ». Mais un dépressif n'est précisément pas capable de lire un chapitre entier et d'en tirer quoi que ce soit. C'est une ineptie que de dire ça. Prie le Seigneur, il va venir au ton secours. Bien entendu qu'il faut donner ce conseil, et ce n'est pas un conseil inapproprié. Mais il faut comprendre aussi que le dépressif va avoir une incapacité à certains moments de prier, et qu'il faut peut-être prier pour lui, prier à ses côtés, se faire le traducteur de ce dont il a besoin, de demander au Seigneur, plutôt que de lui demander à lui d'exprimer une prière qu'il n'est plus capable d'exprimer. Le sentiment d'abandon. Ah, dans l'église, de toute façon, on ne comprend pas, et puis on m'a abandonné, on ne rend pas visite. Et puis quand vous creusez un peu plus, vous vous rendez compte qu'en fait, oui, il y en a eu des visites. Mais les personnes ont le sentiment de l'abandon. Le plaisir d'avoir été visité, d'avoir eu de la communion fraternelle manifestée, du soutien qui a été apporté, il est perdu. Il n'est pas ressenti. Il y a une perte des émotions. Et sur le plan spirituel, c'est très important. Et je crois que c'est important qu'on ait ça à l'esprit. Parce que nos frères et sœurs qui passent par là, des fois on ne les comprend pas, et on peut rajouter peut-être de la culpabilité. Mais si tu n'arrives pas à lire la Bible, c'est qu'il y a un obstacle dans ta vie spirituelle. Et la personne est dépressive, et en plus vous lui collez ça sur les épaules. Ben vous l'enfoncez encore un peu plus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certaines situations où il y a des péchés qui peuvent conduire à cela. Bon, on va y venir. Hein. La vie communautaire, il ne faut pas s'étonner. Vous avez vu l'impact sur le relationnel. Pour le dépressif, il n'a pas envie de voir du monde. Voir du monde est une épreuve. C'est une épreuve qu'il doit affronter. Et parfois, cette épreuve est insurmontable. Et de lui dire, écoute, viens à l'église, ça te fera du bien. Oui, d'une certaine façon, c'est pas faux. Mais il arrive qu'il soit à un moment, à une phase de sa maladie, où il ne peut pas. Et il faut que ce soit l'église qui vienne à lui, et pas lui qui aille à l'église. Je crois que c'est important de comprendre ça aussi. Il y a un repli sur soi, il y a une fuite des relations. Il y a une perte de confiance dans les gens aussi. De toute façon, on ne me comprend pas. Vous avez beau lui dire des paroles vraiment de bienveillance, etc., mais de toute façon, on ne me comprend pas. Tout est analysé sur un plan négatif. Quand on le vit aux côtés des dépressifs, c'est parfois impressionnant tout cela. Hein. Alors, je vais m'arrêter là, parce que vous avez faim. et on passera à un autre volet. Alors, ce que je vais faire, parce que vous avez remarqué qu'on a commencé avec une bonne demi-heure de retard, et moi ce qui me stresse, c'est le timing ce soir. Mais ce que je propose, c'est que ça va aller. Ce que je vous propose, c'est que vous notiez vos questions et qu'on les réserve pour la fin. Et si à la fin, vraiment, c'est très tard et que vous souhaitez partir, vous êtes libre de partir, mais si vous souhaitez rester pour des questions, à ce moment-là, on abordera l'ensemble des questions. Est-ce que vous voulez bien qu'on procède de cette façon? Parce qu'il y a peut-être dans la suite la réponse à la question que vous posez maintenant. D'accord? Je suis désolé, avec les hommes, on a fait autrement, on a fait les questions au fur et à mesure, mais là, on a démarré avec un peu plus de retard à cause des bouchons. Merci beaucoup d'accepter ça.